Soundtrack. La musique de tous vos films. Présenté et animé par Jean-Christophe Fossard.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Soundtrack. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus avec Michael Ponchon.
Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à vous. Alors, on va continuer l'émission sur Mel Gibson. Et oui, il fallait au moins deux émissions parce que malgré tout, il a 67 ans et il a quand même une longue carrière derrière lui. Et j'allais dire, on va commencer directement avec un film emblématique, historique, à la façon, j'allais dire, Mel Gibson, parce qu'il joue un peu sur les choses. Très, très bon film qui a reçu prix et j'allais dire, qui a rapporté aussi beaucoup d'argent.
Oui, c'est un film qui a récolté beaucoup de récompenses à travers le monde, et pour cause, hein, puisque effectivement, on en parlait lors de la première émission, Mel Gibson se fait un petit peu la main en tant que réalisateur sur un film au sujet pas forcément compliqué à mettre en scène, à savoir L'Homme sans visage, et là, bon, il s'attaque quand même au légendaire William Wallace, cette espèce de Robin des Bois écossais. Le film est épique et violent. On y voit des scènes des batailles comme on a encore rarement vu jusque-là. C'est une coproduction internationale, puisqu'on y retrouve aussi bien Sophie Marceau que Patrick McGowan, des acteurs anglais, des acteurs écossais.
C'est un Irlandais.
Film Irlandais. C'est un film qui coûte très cher pour l'époque. Il refait de nouveau appel à James Horner. Et là, Horner, bien évidemment, nous livre une de ses partitions les plus emblématiques en usant de tin whistle et d'instruments vraiment... Il les utilise non pas à la manière dans une forme folklorique, mais il les intègre en fait au sein d'un orchestre symphonique, et c'est ce qui fait toute la beauté de la partition. Et d'ailleurs, beaucoup de gens apprécient aussi bien le film que la partition, et ça reste quand même un album qu'on peut écouter sans forcément avoir vu le film.
Allez, écoutons Braveheart.
The prisoner wishes to say a word.
Freedom!
On va continuer avec un film très très intéressant et qui est aujourd'hui un peu presque précurseur puisque on parle des fake news, on parle, j'allais dire, des sceptiques au niveau comment dirais-je, climatique et puis les fameux complotistes. Eh bien, le film porte le nom Complot et on y voit donc un Mel Gibson qui va... qui est un peu fou quand même, hein, parce qu'il est, il arrive chez lui, tout est prêt à tout est prêt à disparaître, tout est sous cadenas, il a peur qu'on lui mette de... Il ferme son frigo à double tour, et à l'intérieur son café est encore fermé à double tour, de peur d'être empoisonné. Il y a une paranoïa magique, et c'est ce qui rend, j'allais dire, le rôle assez intéressant dans Complot. Et, bien sûr, une femme qu'il va falloir sauver.
Oui, en l'occurrence, Julia Roberts, puisque le but à l'époque, c'est quand même aussi de mettre en opposition à Mel Gibson une star féminine du même acabit que lui, tantôt René Russo, tantôt Jodie Foster, tantôt Julia Roberts. Il retrouve son comparse de L'Arme fatale et de Maverick, en l'occurrence Richard Donner. Et Richard Donner, pour le coup, va aussi changer son fusil d'épaule quant au choix du compositeur. Il fait appel à Carter Burwell, hein, qui est le complice musical des frères Cohen. Et c'est vrai que Burwell, en fait, voilà, nous livre une partition... très nerveuse et en même temps très, très américaine, ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes. C'est plutôt quelqu'un qui a tendance à sortir des sentiers battus en termes d'arrangement et d'orchestration. Et là, c'est vrai que pour le coup, moi, j'aime beaucoup le film, la musique aussi, mais on a vraiment l'impression qu'il a été vers une forme de facilité, mais qui se marie tellement bien à l'image qu'on ne peut pas lui en vouloir et on ne peut que se laisser bercer en fait, par ses notes de musique.
Allez, c'est parti. Après complot, on va rester américain, mais très américain.
Trop américain, j'ai envie de dire.
Peut-être. The Patriot.
Oui.
La musique est signée John Williams. Alors là, John Williams fait le job.
Oui, il fait le job sur une immense production qu'on doit à Roland Emmerich, hein, qui, depuis Independence Day, voilà, devient le réalisateur attitré des blockbusters, puisque, pour rappel, on lui doit effectivement, donc, comme je viens de le citer, Independence Day, puis Le Jour d'après, puis The Patriot, puis Godzilla. Alors, ce n'est pas forcément des films très réussis d'un point de vue esthétique ou scénaristique, c'est juste des blockbusters, donc c'est destiné à divertir le public et à faire de l'argent. Donc, le job.
Moi, je dis, après, je veux bien qu'on jette la pierre sur les blockbusters, mais moi, il y a aussi le fait d'aller au cinéma et j'allais dire, vous mettez votre cerveau en mode non-résistance, vous accueillez les images, vous avez passé un bon moment et on en discutait tout à l'heure, et puis quand vous ressortez, vous avez aussi vite oublié ce que vous venez de voir.
Ces films-là sont faits pour ça.
Mais c'est pas grave.
Bien sûr.
Il n'y a rien de grave là-dedans.
J'ai jamais dit que c'était grave.
Dans l'idée, c'est ça. Je crois que dans le divertissement, il y a le mot divers, d'accord ? C'est très français aussi de critiquer les blockbusters parce qu'on trouve que c'est facile. Oui, il y en a. Et quand on regardait toute la série des Marvel, etc., on se dit, bon, il n'y a pas de... Enfin, le scénario, ça doit tenir en 10 pages. Et encore, je suis modeste. Mais au bout du compte, le job est fait.
Oui, et le public surtout s'y retrouve. Et en l'occurrence, il faut reconnaître une chose à Mel Gibson, et on n'en a pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'il y a un fort phénomène d'identification à ces personnages. Mmh. Il joue très bien les pères de famille, comme dans The Patriot.
Oui, absolument.
Puisqu'il est père de famille nombreuse dans le film. Il va perdre plusieurs fils dans le film, avoir des problèmes de communication avec la plus petite. C'est à la fois le père qu'on aimerait avoir, le cousin, l'oncle, le frangin. C'est-à-dire, on aura envie, voilà, c'est quelqu'un chez qui on a envie de débouler avec un pack de bière pour qu'il nous aide ou avec qui on a envie de discuter.
J'entends.
Et c'est vrai qu'il y a cette faculté chez Mel Gibson, un peu comme l'a fait Bruce Willis par la suite, il y a ce côté très friendly, en fait, quoi. Voilà,
c'est ça.
Très protecteur, très viril, très patriote.
Et quelque part, vous aviez raison, puisque quand même, il est père de 9 enfants, hein, Mel Gibson. Donc, je pense qu'il y a, au-delà de l'identification, il y a la réalité des choses. Allez, on écoute The Patriot.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Soundtrack. Vous pouvez bien sûr réécouter ces émissions qui sont diffusées, rediffusées chaque semaine, ou bien, bien sûr, les télécharger ou les réécouter sur notre site podcast Soundtrack. Et là, vous avez toutes nos émissions. Vous y retrouverez Michael et moi-même. Et puis, vous verrez, c'est facile. Il y a nos photos dessus. Allez, on continue avec quelque chose qui nous passionne, quelque part à Radio Alliance. C'est la Passion du Christ, mais de Mel Gibson. Alors, de retour sur La Passion du Christ. Alors, intéressant ce film, parce que c'est un film de Mel Gibson. Il va faire un autre film dans le même acabit, à différentes époques, en différents endroits, qui est Apocalypto, on écoutera ça un peu plus tard. Et là aussi, j'allais dire, le diable se loge toujours dans le détail. Est-ce que Mel Gibson n'a pas été trop dans le détail avec ce film ?
Alors, pour le coup, il a été dans le détail, parce que le film est vraiment d'une violence extrême. Enfin, moi, c'est un des films les plus violents que j'ai vus. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce film, parce que, justement, il traite d'une façon très... trop biblique, peut-être, voilà, ce qui a pu arriver au Christ. Et j'ai toujours eu du mal avec la violence. Mel Gibson a toujours réalisé des films violents. Je pense que, voilà, dans Braveheart, elle peut être nécessaire, ou dans Apocalypto. Dans La Passion du Christ, il a vraiment pris le parti pris de nous montrer tel que, en tout cas, les choses telles qu'il pense qu'elles se soient passées. Mais c'est vrai que c'est un film, pour moi, sur la chair du Christ. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, on est...
La
quand
souffrance,
même dans
la douleur.
La douleur, la souffrance, le déchiquetage, enfin, le martyr d'un homme. Vous le rappeliez lors de notre précédente émission, effectivement, il prend le parti pris de réaliser le film en araméen. Et, pour le coup, ne fait pas appel à James Horner en tant que compositeur, mais à John Debney, qui est un compositeur, voilà, qui est en train de faire ses premières armes au cinéma et qui deviendra bien prometteur par la suite. Et c'est vrai que la partition, voilà, est à la hauteur... De l'envergure du projet, parce que le film a eu du mal à se monter. Mel Gibson a eu du mal à trouver des financements, et pour cause, hein, quand on s'attaque au Christ, j'ai envie de dire, c'est un chemin de croix pour le coup, pour le voir se mettre sur, non pas sur croix, mais sur pied, effectivement.
Oui, oui. Après, le sujet est connu.
Le sujet est connu, mais est toujours sujet à controverse et à polémique, et qui plus est réalisé par Mel Gibson, donc ce qui n'a pas, à l'époque, fini de faire couler beaucoup d'encre dans les journaux.
Surtout que peu de temps après, il aura... quelques réflexions un peu antisémites et qui le mettront hors contrôle. Alors, hors de contrôle, devrais-je dire, regardez la subtilité de partir sur...
Très, 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 très belle transition.
Vous avez vu, c'est formidable.
Digne d'un match de foot.
Écoutez, Écoutez, mon cher ami, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors, Hors de contrôle, musique, Howard Shore.
Musique Howard Shore, c'est un film réalisé par Martin Campbell. Très, très bon réalisateur de films d'action à qui on doit GoldenEye, Le Masque de Zorro ou encore Casino Royale. Il fait appel à Howard Shore pour ce film, en fait, qui est une adaptation d'une série télé à succès, une série télé anglaise, qui traite encore une fois d'un sujet, à savoir le nucléaire. Tant dans la série télé, la musique était confiée à Michael Kamen et Eric Clapton. Là, Martin Campbell fait appel à Howard Shore. Et moi, c'est un des derniers très bons films que j'ai vu avec Mel Gibson. Ce serait difficile, non pas de vous raconter l'histoire, hein. C'est un homme qui se bat en fait pour retrouver les assassins de sa fille et qui va donc se battre contre le lobby nucléaire. Et je trouve que son personnage est vraiment encore une fois non pas border, mais c'est un père de famille qui va chercher à venger sa fille, et pour cause. Et on a effectivement les thèmes chers à Mel Gibson, c'est-à-dire la remise en question, la vengeance, la paranoïa et finalement le droit à la justice.
Allez, on va continuer avec un film, Hamlet. On y retrouve Glenn Close et, bien sûr, Mel Gibson. Alors, être ou ne pas être, c'est la morale et la morale face à la folie, puisqu'en gros, Hamlet traite de ceci, de la morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, est-ce que l'on est ou est-ce qu'on n'est pas, et de la folie qui s'en empare. Alors, ce film, c'est assez intéressant de voir à quel point il a été tourné plutôt d'une façon plus KPDP que réellement dans la tradition shakespearienne. Et la musique est signée.
Ennio Morricone.
Et donc, à travers ça, on voit qu'il y a autre chose. Parce que si on analyse souvent, ne serait-ce que le Hamlet par Kenneth Branagh, qui dure 3h30 et qui va être dans une pure tradition en matière de musique de film, très shakespearienne, c'est-à-dire très théâtre, très et même l'adaptation de Branagh, qui est un peu longue à mon goût et qui est c'est pas une des meilleures, je l'avoue. Il y a ce qui arrive à lever ou en tout cas à révéler le film et à vous faire tenir, c'est un peu la musique. A contrario, dans ce Hamlet-là, le Mel Gibson, on a l'impression que ça a été fait à la Hollywood, vite fait.
Ça a été adapté pour Mel Gibson.
Et
l'adaptation s'est faite autour de ce qu'il représentait à l'époque.
Oui, alors donc c'est petit. on va dire ça.
C'est pas que c'est petit, c'est que il est par essence, à mon avis, le héros viril de film d'action. Et pour le coup, on lui confie le rôle d'Hamlet, et vraiment un personnage dans lequel je pense personne ne le voyait ni même ne croyait en fait quoi. Le film, à mon sens, il a une force, c'est qu'il existe aujourd'hui. Et je pense pas que grand monde croyait en fait. Et d'ailleurs, le film sera quand même un four au cinéma. Les gens n'avaient pas envie en 1990 de voir Mel Gibson en dehors de films d'action ou de films comme il avait l'occasion.
En sachant qu'il a été tourné, je vous dis, comme un cap et l'épée. Hein.
Oui, vraiment, donc adapté, à mon sens, un petit peu à la sauce Mel Gibson. Pour
mais la musique vaut le détour.
Oui, parce qu'encore une fois, Zeffirelli et Morricone, Zeffirelli, qui est un grand metteur en scène italien, et Morricone, finalement, ne se seront croisés qu'une fois, et ce sera à l'occasion de ce film. Mais à l'instar de Mel Gibson, Morricone, encore une fois, est un touche-à-tout de génie, il n'est jamais là où on l'attend, et il s'adapte, c'est un vrai compositeur caméléon. Et je trouve que le travail qu'il a fait sur Hamlet a longtemps été sous-estimé, il a été réévalué quelques années plus tard par les fans du compositeur. Mais c'est pour ça que je trouvais... On trouvait d'ailleurs intéressant de proposer, et d'ailleurs c'est le cas dans toutes nos émissions, de sortir parfois des sentiers battus et de proposer des musiques ou de parler de films en fait dans la carrière de réalisateur, d'acteur ou d'actrice qu'on a rarement l'occasion d'évoquer autre part.
Allez, être ou ne pas être, là est la musique. Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, Soundtrack, l'émission animée par Michael Ponchon et Jean-Christophe Hossard. Ce que veulent les femmes. Alors là, c'est un film magique. Le pouvoir de savoir ce que pensent les femmes.
D'entendre ce qu'elles pensent.
Et d'entendre sur l'instant. Allez, parlons un peu de ce film. Et on Et le choix de musique, puisque c'est ça le truc.
Oui, le choix de musique est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Mel Gibson travaille avec une réalisatrice. Il aura pour habitude de travailler avec beaucoup de metteurs en scène hommes. Et Ce que veulent les femmes arrive à point nommé dans sa carrière, parce que je pense qu'il est un tournant au début des années 2000. Le cinéma est en train de changer, on passe vraiment à l'ère numérique. Je pense qu'il a du mal un peu à se positionner en termes de carrière. Et Nancy Meyers, qui est une scénariste, productrice et réalisatrice américaine, lui propose ce film. La musique est très, hormis le travail d'Alan Silvestri en tant que compositeur original, la réalisatrice va vraiment prendre le parti pris d'utiliser des chansons. Et on a choisi, pour rendre hommage aussi à ce grand monsieur, à ce crooner américain qui était Tony Bennett, donc de lui rendre hommage puisqu'il est décédé cet été, en vous proposant la chanson
The Good Life.
The Good Life.
Life full of fun seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est toujours un crève-cœur de nous séparer, mais il faut bien y arriver, à un moment ou à un autre. Et on a choisi un dernier morceau. Alors, on l'a choisi exprès de le mettre à la fin, parce que, bon, il n'est pas si coriace que ça, puisque il est presque printanier.
Oui, il est presque printanier, puisqu'on entend les
cacatoès.
Les cacatoès, on y entend les sons de la jungle, et on doit justement ce mélange, en fait, de musique et de bruits tropicaux à James Horner, pour, en l'occurrence, le troisième film comme metteur en scène de Mel Gibson, à savoir Apocalypto, le quatrième film, pardon.
Oui.
Le fait est, encore une fois, que le metteur en scène fait appel à son complice James Horner pour un film, encore une fois, très violent et très osé, ou en tout cas, c'est un projet, encore une fois, c'est un pari. J'ai l'impression que Mel Gibson a souvent réalisé des films, non pas pour se prouver des choses à lui-même, mais non pas pour prouver d'ailleurs quoi que ce soit à qui que ce soit, mais... C'est très intéressant de voir que ce qu'il a fait en tant qu'acteur diffère de ce qu'il nous a proposé en tant que réalisateur. Et hormis, effectivement, L'Homme sans visage et Braveheart, il ne se mettra pas en scène dans Apocalypto ni dans La Passion du Christ. Et je trouve que cette mise en retrait, en tant qu'acteur, et vraiment cette mise au service de la mise en scène et de comédien, pour la plupart d'ailleurs dans Apocalypto, non professionnel, est tout à son honneur.
Allez, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre podcast www, bien sûr, Radio Alliance Plus. Vous allez dans musique, vous verrez, c'est simple, vous cliquez sur musique et là vous verrez soundtrack, vous cliquez sur soundtrack et apparaîtront l'ensemble des saisons de toutes les émissions soundtrack. Michael, je vous dis au revoir.
Au revoir Jean-Christophe.
Et je dis au revoir à nos auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine.